Le Front National parle de protectionnisme, mais l'idée protectionniste, c'est une idée économique, mais c'est une idée économique qui ne peut fonctionner que dans un certain contexte culturel et national. Et donc le protectionnisme, fondamentalement, c'est la solidarité de tous les travailleurs sur un territoire. Donc bien entendu, pour que ça marche, il faut inclure les immigrés et leurs enfants. Mmh. Et donc c'est quelque chose qui ne peut être vraiment mis en pratique qu'avec en plus un esprit de reconstruction nationale qui inclut tout le monde. Donc quand le Front National parle de protectionnisme, il parle d'un machin qui en fait en pratique n'a aucun sens. D'ailleurs, les premiers bénéficiaires de stratégies protectionnistes, ce seraient les enfants d'immigrés, en fait, qui sont les plus faibles sur le territoire national.
Oui, mais Emmanuel, pourquoi est-ce que Sapir n'y est pas arrivé? Vous citez, on va citer certains souverainistes, certains courants souverainistes, on va citer effectivement les idées de Sapir sur le protectionnisme, etc. Oui. Pourquoi est-ce que ce courant, qui ne date pas d'hier, dont vous êtes un compagnon de route, voilà.
Oh non, un peu plus que ça, hein. Je veux dire, j'étais l'un des premiers à faire une conversion.
D'accord. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas imposé non plus?
Ça ne s'est pas imposé, mais ça ne veut pas dire que ça ne s'imposera pas.
Ouais.
Et je veux dire, il y a des virages, etc. On est aussi à un moment de l'histoire où le néolibéralisme est au bout du bout de son cycle. On est dans un reversement, au bord d'un renversement de l'histoire qui dépasse largement la société française. On est aussi dépendant de ce qui se passe ailleurs. Donc le renversement est tout à fait possible. Et l'idée que les économies occidentales doivent se stabiliser et se reconstruire en utilisant plus de régulation et de protection, c'est une idée dont on peut tout à fait imaginer qu'elle progresse aux États-Unis. D'ailleurs, elle progresse en fait aux États-Unis. C'est ce qui était derrière le dernier discours d'Obama. Je veux dire, c'est des vagues planétaires quand ça se passe. Mais c'est simplement que si on passe au niveau de l'analyse sociologique interne, il faut que la conversion à ces idées doit se faire chez les jeunes éduqués supérieurs. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas faite par les masses populaires opprimées seules. C'est-à-dire que la magie de l'histoire de France, je veux dire, c'est ces phénomènes de bloc à un moment donné où tout le monde se retrouve d'accord contre 1% de supérieurs, des aristocrates à la lanterne et toutes ces choses-là. Mais il faut bien entendu qu'il y ait participation populaire, mais il faut aussi, dans les classes moyennes, et pas juste les classes moyennes inférieures, dans les classes moyennes supérieures et une partie des élites, et actuellement, les jeunes éduqués supérieurs, qui commencent à peser très lourd, ils sont, pour des raisons culturelles, ils sont dans des tripes hyper individualistes. Et c'est vrai qu'ils prennent tout dans la gueule, donc ça peut changer, parce que c'est eux qui prennent le plus les effets du libre-échange avec le monde ouvrier. Mais actuellement, ils sont plus dans visiter le monde ou foutre le camp et regarder à l'extérieur que dans un trip de reconstruction nationale.
François Ruffin.
On ne peut pas exclure que ça ne se passe pas.
François Ruffin, le peuple lui-même ne peut rien sans des classes éduquées. Ça vous va, ça?
Ouais,
c'est le prochain édito de Fakir.
Non, c'est déjà...
Le peuple ne peut rien.
C'est l'édito de Fakir depuis maintenant un paquet d'années. À savoir que contre le divorce des deux cœurs sociologiques de la gauche et la nécessité d'une réunion des deux cœurs sociologiques dans l'histoire de France, qu'est-ce que c'est 1789? C'est la capacité de jonction de la petite bourgeoisie intellectuelle ou d'une petite bourgeoisie intellectuelle à l'époque, à savoir les avocats, pour beaucoup, qui étaient les représentants du tiers-état de l'Assemblée nationale, de jonction avec les classes populaires des villes pour la Bastille, les classes populaires des campagnes avec la Grande Peur. 1936, le Front Populaire, c'est la jonction des ouvriers et des intellectuels hostiles au fascisme. Pendant que mai 68, c'est la jonction difficile. Tout ça, c'est la jonction confrontation des étudiants.
C'est une jonction qui n'a pas vraiment eu lieu en
68. Oui, mais bon, il n'y aurait pas eu mai 68 s'il n'y avait pas eu les deux, en tout cas. S'il n'y avait pas eu les étudiants et les ouvriers. Effectivement, aujourd'hui, par exemple, il y avait des unes de Charlie Hebdo sur le peuple moustachu, qui était veule, qui allait dans les campings, qui buvait du pastis, qui jouait à la pétanque, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a toute une culture des éduqués qui s'est développée pour dénoncer le peuple comme étant un truc sale, un truc avec qui il ne fallait pas se mélanger.
Ça provient effectivement des classes moyennes
qui ont
eu dans les années 70, après avoir divinisé le peuple après la Deuxième Guerre mondiale, je parle de chez nous, qui brusquement, dans les années 70, sont mis à en faire un espèce de beauf, qui d'ailleurs maintenant n'étonne personne quand ils votent pour le Front National.
Voilà. Alors, ça veut dire qu'il y a eu deux phénomènes, un phénomène économique qui s'est conjugué à un phénomène culturel, c'est-à-dire qu'en même temps que les classes populaires se prenaient les pains de la montagne mondialisation, avec le secteur textile qui se barre, le bois et ainsi de suite dans la tronche. Ils étaient discrédités sur le plan symbolique, représentés comme des partisans de la guillotine et du pinard, quoi.